Alors, ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble Jean 17. Jean 17, et on va lire ce texte. Il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce texte, te remercier pour cette prière que tu as adressée. Seigneur, nous te remercions parce que, comme nous venons aussi de le chanter, mon Sauveur prie pour nous, et tu pries pour chacun de nous. Seigneur, combien tu nous aimes, combien tu nous le prouves chaque jour, et merci, Seigneur, d'avoir prié pour nous ce matin. Merci, Seigneur, de nous bénir, s'il te plaît, d'être avec nous, de bénir ta parole. Seigneur, c'est ta parole sainte qui est la vérité, qu'elle nous édifie, qu'elle nous stimule, qu'elle nous fortifie dans la foi, Seigneur, qu'elle nous encourage et qu'elle te glorifie, Seigneur. Bénis-la, aide-moi, cache-moi. Et glorifie ton Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y avait un pasteur qui était à la sortie de l'église, et c'était à la fin du culte, il serrait la main aux uns et aux autres, il disait au revoir, et puis il y a quelqu'un qui s'adresse à lui, et qui dit, « Oh, merci beaucoup pour les deux sermons que vous avez prêchés. » les deux sermons que j'ai prêchés, mais j'en ai prêché qu'un. Non, mais celui que vous avez prêché, celui que vous avez prié. Alors, on ne sait pas ce qu'avait prié ce pasteur, on ne sait pas si cette personne avait été reprise ou bien édifiée, et c'est sûr que ce n'est pas une bonne chose quand, vous savez, on prie, mais on est en train de prier non pas à notre Dieu, mais on est en train de faire passer un message à l'autre. Ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Soit on s'adresse à Dieu seul, soit on ne prie pas. Il vaut mieux pas prier, ça c'est certain. Mais ici, on voit que c'était précisément l'intention de Jésus, non pas de parler directement à ses disciples, mais il était en train de prier son Père pour qu'ils entendent aussi la prière qu'il était en train de faire à son Père. C'était le but, Il voulait qu'ils entendent toutes ces choses qu'il était en train de dire à son Père pour qu'ils en soient édifiés. Et sans aucun doute, Jésus avait toute son attention fixée vers son Père céleste. Mais il voulait que les disciples entendent toutes ces requêtes qu'il était en train d'adresser à Dieu. Et il voulait qu'ils soient dans la joie, dans le repos de savoir toutes ces choses. Et quand vous regardez cette prière, tout Jean 17, c'est un merveilleux enseignement pour nous. On voit le cœur du Seigneur qui est mis à nu dans cette prière avec son Père. Un jour, les disciples ont demandé au Seigneur, ils ont dit « Enseigne-nous à prier ». Alors le Seigneur leur a donné l'exemple du Notre Père, vous connaissez cette prière. Mais écoutez Christ dans cette prière de Jean 17, mais c'est aussi un enseignement pour nous, pour nous montrer mais comment nous devons nous adresser à Dieu, qu'est-ce que nous pouvons lui demander, qu'est-ce que nous pouvons retirer de tout cela. On a appelé cette prière de Jean 17 la prière sacerdotale. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus-Christ qui fait office de souverain sacrificateur et qui plaide, qui prie pour nous en faveur des saints. Pendant un moment de ma vie chrétienne, je m'étais dit, c'est pas bien que tu pries d'abord pour toi-même. Faut d'abord prier pour les autres et puis après tu prieras pour toi-même. Mais en fait, le Seigneur nous enseigne tout le contraire ici. Tout le contraire. Il commence à prier pour lui-même. Il va d'abord prier pour lui-même, ensuite il va prier pour ses disciples, et puis ensuite il va prier pour le monde à l'extérieur. Et donc, c'est pas contre-indiqué de commencer à prier pour soi-même quand on a fermé la porte de sa chambre. Au contraire, commençons à prier pour nous-mêmes, puisque c'est conseillé. Il faut aussi être sûr que tout va bien avec le Seigneur. On se met en règle, si jamais ça ne va pas, confesse nos péchés, on rétablit sa communion. S'il y a une ombre, on marche dans la lumière, c'est marcher dans la lumière. Et puis, en communion avec lui, alors eh bien après, on se met à prier pour les uns et pour les autres. Alors Jésus va demander 7 choses à son Père, on va les voir ensemble. Première requête, on va relire les versets 1 à 4. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Donc on voit Jésus ici qui réclame la glorification, l'élévation, pour une seule et unique raison, afin que ton Fils te glorifie. Il n'y a pas ici une intention personnelle, pas de désir de gloire personnelle pour lui-même, non. Uniquement une volonté d'élever son Père céleste. Il dit d'ailleurs au verset 4 que ça a toujours été son but sur la terre, toujours, tout le temps, et qu'il a achevé son œuvre pour ce but. Et finalement, Jésus nous place ici devant ce qui compte le plus pour la vie d'un homme. Quelqu'un a dit très justement, quiconque a vraiment glorifié Dieu ici-bas a achevé sa tâche. Quel que soit son âge, tandis qu'on l'a à peine ébauché ou commencé sa tâche, eut-on 100 ans, tant qu'on n'a vécu que pour sa propre gloire et sa propre satisfaction. Voilà. On a vraiment achevé sa vie quand on a vécu pour la gloire de Dieu. Alors que si on a vécu pour soi-même, eh bien, voilà, on n'a pas encore achevé. Donc on est 100 ans, 80 ans, hein, il faut vivre entièrement pour sa gloire jusqu'au bout. Et c'est une grande vérité, vivre pour la gloire de Dieu, c'est atteindre le but. Hein. Faire uniquement ce pourquoi Dieu nous appelle, ce qu'il veut que nous fassions, ça c'est le glorifier. Alors Jésus demande au Père qu'il l'élève, qu'il le glorifie lui-même, afin que lui, Jésus, puisse à son tour glorifier son Père. Et comment le Fils allait glorifier le Père? Comment il allait l'élever? Jean 17, c'est juste avant le jardin de Gethsémané. Donc juste avant, eh bien, toute la suite des événements après Gethsémané, c'est-à-dire son arrestation. Et on peut dire que la glorification du Fils, elle s'est réalisée dans la mort et dans la résurrection. C'est là où le Fils a été glorifié, élevé. Et s'il est vrai que la croix, ça a été une très grande humiliation pour le Fils de Dieu, sa résurrection, ça a été une victoire, un triomphe. Hein. Il a vaincu la mort. Ça a été une très grande gloire. Et le Fils fut glorifié le matin de Pâques dans un corps glorieux. La mort n'avait pas pu le retenir. Et il a accompli l'expiation pour le péché des hommes. Il a donc immédiatement glorifié le Père parce que la rédemption, le rachat qu'il a opéré sur la croix, eh bien ça a réconcilié des milliards de créatures. Des milliards ont été sauvés par la mort de Jésus-Christ. Et donc sa résurrection, sa victoire sur l'enfer, sur la mort, mais c'est une gloire véritablement. Il dit « Glorifie ton Fils » afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et le Père l'a fait. Le Père a glorifié le Fils par la mort et par la résurrection, et en sauvant des milliers, des millions de croyants par la prédication de la croix. Et de la même manière, nous chrétiens, eh bien, on est appelés à glorifier aussi notre Père. On doit le glorifier. Et si Dieu nous bénit, si Dieu eh bien, nous fait un don, nous agit dans notre vie, eh bien, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour qu'on glorifie le Père hein, par le biais de ce qu'il fait dans notre vie. Uniquement le glorifier. Il faut lui redonner eh bien, tout ce que l'on reçoit. Ensuite, deuxième requête, regardez verset 5. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi-même avant que le monde soit. Jésus a été un esprit, l'esprit suprême, hein, glorieux de toute éternité, étant lui-même Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Père et le Fils ont agi ensemble pour faire toute la création, pour placer tout l'univers. Et donc, il était le Fils glorieux dans l'éternité, devant les anges qui le servaient. En Philippiens 2, nous lisons « Existant en forme de Dieu, Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. » Donc, Jésus, égal à Dieu, Dieu lui-même, semblable à son Père. Il avait ainsi tout ce qui s'attache à la divinité, toute la gloire qui s'attache à la divinité, étant Dieu lui-même. Mais Dieu le Fils, il est dit, a accepté de se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et donc, Jésus a mis de côté son égalité avec Dieu. Il était égal, il a mis de côté son égalité avec Dieu. Il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Vous savez, comme un lion qui saisit une proie et qui l'emporte dans sa gueule. Non, il n'a pas regardé l'égalité avec Dieu comme quelque chose que je veux garder pour moi-même. Il l'a laissé partir. Il l'a laissé partir. Il a enlevé. Le texte dit même, c'est sa morphée de Dieu, c'est sa forme extérieure de Dieu. Puisqu'il a pris une forme, une morphée d'homme. Il est devenu un simple homme. Il s'en est dépouillé, s'est dépouillé de cette égalité. Il a mis de côté le fait d'être à l'égal de son Père, Dieu Tout-Puissant, et il a pris une forme de serviteur, un homme banal, un homme comme nous, exactement comme nous. Mais maintenant que l'œuvre est achevée, s'apprête à être achevée, maintenant que son ministère est sur la fin, maintenant qui s'apprête à accomplir ce pourquoi il est venu, la mort et la résurrection et le rachat de milliers, alors eh bien il demande, Père, rends-moi cette gloire que j'avais auprès de toi auparavant. Redonne-moi cette égalité qui était invisible. Et Jésus va retrouver cette gloire d'être l'égal de Dieu son Père, puisque le passage de Philippiens, la suite dit, « Puisqu'il a accepté d'être humilié, alors Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et donc sa prière a été exaucée en s'asseyant à la droite de Dieu son Père. Et le Père a déjà, d'ores et déjà, tout mis sous ses pieds. Même si nous ne le voyons pas encore, un jour nous le verrons. Tout est d'ores et déjà sous ses pieds. Jésus est la personne qui règne sur l'univers entier et sur toute créature. Il est le Seigneur des Seigneurs. Homme, ange, démon, tout le monde fléchira les genoux devant lui. Et là encore, on voit un enseignement, un exemple dans la personne de Jésus, c'est cette capacité à renoncer à lui-même, renoncer à certaines choses qui nous semblent précieuses, la capacité de descendre, de diminuer, de prendre une petite place, une place qui est inférieure. Monter, c'est facile, descendre, c'est plus difficile. Est-ce qu'on est capable de descendre comme notre Seigneur ? Seigneur a dit, prends la dernière place. Vous vous souvenez de ça? Quand tu es invité à un repas, etc. Plutôt que de chercher à te mettre à côté de l'invité, enfin de la personne qui invite, mais prends la dernière place. Va te mettre à la dernière place. Et attends, en fait, laisse-moi que moi je t'honore et que moi je te fasse monter. Troisième requête, verset 6. Versets 6 à 8. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Là, Jésus s'adresse aux vrais chrétiens. C'est des vrais chrétiens. Pas simplement des croyants en Dieu. Il parle de ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Ça, c'est des enfants de Dieu. Ils gardent la parole de Dieu. Ils ont connu que tout ce que Jésus faisait venait du Père. Il y a une reconnaissance. Oui, Jésus-Christ, il vient de Dieu le Père. Ils ont reçu les paroles de Dieu. Ils ont connu que Jésus venait de Dieu. Ils ont cru que c'était le Père qui l'avait envoyé. Et donc, là, Jésus nous parle de ses proches, de ses disciples, de ses apôtres qui l'ont suivi jusqu'à présent. Et donc, c'est tous les vrais croyants contemporains à Jésus. Il ne parle pas de la foule qui croit de loin. Vous savez, les gens qui croient en Dieu, il y a 89% de personnes sur cette terre. Donc, ça fait quand même pas mal de milliards. Hein. 89% qui croient en Dieu, qui ont une religion, une foi dans une divinité, mais qui sont vraiment enfants de Dieu dans ces 89%? Quelle est la vraie relation avec le Fils de Dieu dans ces 89%? Ils sont peu nombreux. Et là, Jésus s'adresse à ses disciples, ses vrais enfants. Il dit, verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. » Et là, la troisième requête, elle est donc spécifiquement pour ses disciples qui étaient là avec lui. Alors, il commence sa requête, verset suivant, versets 11 à 15. Il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc là, Jésus s'apprête à quitter la terre, il en parle, et il prie pour la protection de ses disciples. Protège les disciples, Seigneur. Maintenant, ils vont rester seuls. Jusqu'à présent, il les avait protégés. Et maintenant, ils vont se retrouver seuls face à deux dangers qu'ils vont devoir affronter. Il s'agit du monde et du malin. Il dit, ils ne sont pas du monde. Et en plus, eh bien, il y a le malin qui est là. Alors, le monde, ça peut représenter plein de choses. Bien sûr, quand on dit le monde, bah, c'est notre monde, hein, mais c'est notre monde matériel. C'est tout ce qui brille, tout ce qui est dans ce monde, tous ces avantages, toutes ces richesses, tous ces plaisirs, tout ce qui nous est offert, là, sans cesse, sur des publicités. Mais finalement, qui est creux, qui est fragile, qui passera. Ça ne restera pas. Et puis, le monde, c'est aussi tout cet esprit du monde, hein, toute cette pensée du monde, qui tend à nous éloigner de Dieu et à nous inviter à vivre sans Dieu, à faire sans lui et à vivre indépendant de lui. Tant que Jésus était là, son influence et le simple fait de sa présence, ben, ça les préservait. Vous imaginez, vous avez Jésus avec vous, ben, vous le suivez quoi, hein, vous le suivez. Et sa présence même vous garde, vous êtes avec lui. Il veillait sur ses disciples. Et dès qu'ils s'égaraient, si jamais ça arrivait, avoir la pensée du monde, tout de suite Jésus, hop, donnait une parole et il redressait. Nous aujourd'hui, ben, c'est pour ça qu'il faut rester attaché à la lecture, hein, si on veut que Jésus continue à nous garder aussi. Hein, parce qu'on lit une parole, ah oui, c'est vrai Seigneur, et hop, on est gardé. Si on ne lit pas, eh bien, on s'éloigne. On s'éloigne beaucoup plus facilement. Et donc, Jésus prenait soin de ses disciples tant qu'il était là, mais là, il va être arrêté, accusé, crucifié. Ces événements s'approchant, eh bien, Jésus ne pourra pas garder dans cet instant ses disciples. Alors, eh bien, il demande à son Père de le faire. Et puis, il demande également de les préserver du malin. Et donc, c'est un deuxième danger qui guette le chrétien. La Bible dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». On ne prend pas toujours cette parole au sérieux, ou on l'oublie en tout cas, comme on ne voit pas le diable, on ne voit pas les anges, on est dans un monde matériel et on voit avec nos yeux physiques, donc on a tendance à oublier, et particulièrement peut-être nous aussi dans nos milieux, hein, on n'y pense pas parce qu'on ne veut pas l'évoquer, on ne veut pas lui faire de la publicité, mais le danger il est bien là, le malin il est là. Et il est en train d'agir. Là, on est en train de faire le local. Là, on a des difficultés pour installer la clim. Mais on se dit, mais enfin, moi, je me dis, en tout cas, c'est le diable qui veut vraiment pas qu'on fasse les choses pour qu'on puisse avancer. Il nous a mis une voiture juste devant pendant 15 jours. Le gars a abandonné la voiture, quoi, hein, jusqu'à se prendre des amendes. Mais il essaie, voilà. Moi, je pense que le diable, eh bien, nous empêche aussi d'avancer parfois. Pierre s'est douté de rien. Si le Seigneur ne lui avait pas dit « Arrière de moi, Satan », Pierre n'aurait jamais pensé une seule seconde que c'était le diable qui venait de l'influencer pour lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, tu ne feras pas ça, hein, tu n'accepteras pas la crucifixion. » Mais c'était le diable qui était en train d'agir. Et le Seigneur ne nous le dit pas forcément. On vit des choses, il ne nous dit pas « Mais fais attention, c'est le diable là. » Mais c'est une réalité. Et donc Jésus a demandé à son Père de protéger ses disciples contre ce deuxième danger qui les guettait. Maintenant, on peut dire que cette prière, elle perdure encore aujourd'hui. Elle est toujours effective. Dieu, par son Saint-Esprit, eh bien, veut nous garder et il nous garde, hein, quand eh bien, il nous met mal à l'aise vis-à-vis de certaines choses qu'on va faire, hein, quand on va s'engager dans une direction et qu'on sent que ça va plus, ça commence à se tordre en nous. Et voilà, le Saint-Esprit nous prévient, il nous dit stop, stop, c'est la mauvaise direction. Il veut aussi nous garder du malin et il le fait quand on reste attaché à ce que la Bible dit. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu et le diable s'éloignera de vous. » Le malin s'éloignera. Soumettez-vous à ce qui est écrit. Obéissez à la parole et vous serez préservés aussi du malin. Quatrième requête, versets 17 à 19. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jésus demande encore à ses disciples, demande encore que ses disciples soient sanctifiés par la vérité, sachant que la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qui sanctifie. Et on voit un troisième danger qui guette le disciple. C'est peut-être le danger le plus sournois, parce que c'est à l'intérieur. C'est la chair, en fait. C'est la mauvaise nature. S'il nous parle de sanctification ici, c'est qu'on a besoin d'être sanctifié, justement, de cette nature qui est en nous, une nature naturelle, qui nous vient, eh bien, de notre naissance. C'est le péché en nous. C'est cette propension, cette inclinaison à aller vers le mal et à désobéir. Et seule la sanctification que Dieu opère dans un cœur peut transformer une vie. Par exemple, on ne se délivre pas facilement de la colère, de l'hypocrisie, de la jalousie, de l'égoïsme, de toutes ces choses. On dit « Oh, c'est des défauts ». Non, c'est des péchés. Et on ne s'en délivre pas facilement, c'est sûr. Mais par la sanctification que Dieu opère dans notre cœur, alors eh bien, on est libéré. C'est merveilleux, vous savez, quand vous vivez, par exemple, vous avez de l'amertume envers quelqu'un, et voilà, tout vous pousse à exprimer cette amertume, par une parole, par un pic, ou un visage, un mécontentement. Et puis, vous marchez avec le Seigneur, puis c'est la grâce qui surabonde, et puis vous donnez une parole gentille et sincère. Et vous voyez bien, mais merci Seigneur. Parce que si ce n'était que moi, je me retrouverais par terre. Mais par la grâce et par la sanctification qu'opère le Seigneur en nous, eh bien, on a des sentiments sincères, du pardon, de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la bienveillance. Jésus dit, il demande, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans l'idée de sanctification, il y a aussi l'idée d'être mis à part. Quand il dit sanctifier, c'est aussi mêler à part, qu'il soit, voilà, pour toi, pour moi. Jésus veut mettre à part ses disciples pour qu'ils ne... Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus du monde. Ils étaient dans le monde, ils sont encore dans le monde physiquement, mais ils ne sont plus du monde. Ils appartiennent maintenant au Seigneur. Alors, eh bien, mêler à part, sanctifier. Et c'est certain que plus la Bible agit dans notre vie, plus eh bien, on devient aux antipodes du monde. On commence à faire les choses d'une manière différente du monde. Plus la parole de Dieu en nous, plus on la lit, plus on se laisse reprendre par elle, eh bien, plus on marche à contre-courant du monde. On va dans l'autre sens. Le monde va dans une direction et puis on dit « mais c'est plus ce que j'ai envie de faire ». Et on prend l'autre direction et on s'éloigne. Et donc Jésus entoure ses apôtres, il les protège par cette prière, devant ces trois grands ennemis qui peuvent les faire chuter en son absence, le monde, le diable, la chair. Alors quand vous êtes chrétien depuis des années, vous pouvez vous dire « Ah, mais je connais ça ». Mais vous savez, c'est notre lot quotidien et jusqu'à la fin. Ça sera toujours la même histoire pour chacun d'entre nous. Si à un moment nous tombons dans notre semaine, mais c'est toujours ça. C'est toujours la chair qui a des inclinaisons, ou bien c'est le diable qui est en train d'agir, ou le monde qui nous séduit. C'est toujours ça. Depuis l'origine, depuis Adam et Ève, c'est toujours la même manière pour nous faire chuter. Et si on veut prier avec intelligence pour nos frères et sœurs, eh bien, c'est aussi un modèle de prière que nous devons prendre, prier ce que Jésus prie. On doit prier les uns pour les autres, mais Seigneur, mais protège mon frère de, protège ma sœur du monde, du péché, de la chair, du diable. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Et si l'un d'entre nous s'est égaré loin de la vérité, ou qu'il est en train de s'égarer petit à petit, que ce soit le monde, le diable ou la chair, à cause de, comment dire bien, c'est à nous de justement prier et dire, Seigneur, mais ramène ce frère, ramène cette sœur, s'il te plaît. On doit combattre ces trois fronts en même temps. Jésus a pas prié pour des petites choses, des petits détails de la vie, même si on prie bien sûr pour les détails de la vie quotidienne. Mais il a prié pour trois grands axes qui sont importants. Et c'est important pour nous aussi. Cinquième requête, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et donc, après avoir prié pour lui-même, après avoir prié pour ses disciples proches qui l'entouraient, Jésus va maintenant prier pour nous. Il parle de nous, en fait, là, hein, puisqu'il est en train de parler de ceux qui vont croire, les futurs croyants dans les siècles à venir. Il est en train de parler de nous. Et l'évangile, c'est comme un bâton de relais. Vous savez, on passe le relais. Eh bien, les apôtres ont passé le relais à d'autres chrétiens qui ont passé le relais, et ainsi de suite. Et puis, ça nous est parvenu. Et nous aussi, on entend l'évangile et on croit. Et Jésus demanda que tous ses enfants de tous les temps soient tous un à l'image de l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Et donc, Jésus a prié que tous soient unis, tous les vrais chrétiens, en lui. Qu'ils soient parfaitement un. Jésus a donc prié pour une unité parfaite. Père, Fils, croyant. Un. Alors la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que Jésus a été exaucé ? Quand on regarde toutes ces dénominations de vrais chrétiens, hein, il y a plein de chrétiens. C'est une église baptiste. Mais il y a des églises frères, des églises d'arbistes, des églises pentecôtistes, des églises juste évangéliques, évangéliques protestantes. Enfin, c'est tellement large, la famille, hein, la famille du Seigneur. Est-ce que Jésus a été exaucé? Puisque tous ne sont pas toujours d'accord entre eux. C'est vrai que sur les grands axes, Dieu, Jésus-Christ, le salut par la foi seul, c'est une évidence, tous unis. Hein, c'est clair. Et la parole de Dieu, autorité, c'est une évidence. Mais après, pour les petites choses secondaires, là, c'est là où ça commence à diverger quelque peu, hein, et il y a des petites séparations. Alors, est-ce que Jésus a été exaucé? Mais il faut plutôt se poser la question, est-ce qu'il est possible que Jésus ne soit pas exaucé? Ben non, impossible, puisqu'il fait toujours ce qui est agréable à son Père. Donc, le Père exauce toujours le Fils. Ça, c'est une vérité. Dieu, le Père, a répondu à sa prière. Et on peut dire, cette unité, elle existe réellement. Il y a une vraie unité. Ça, c'est un fait. De par l'esprit que les croyants reçoivent dans leur cœur, hein, on a le Saint-Esprit, on a cru en lui, alors nous sommes tous un par le Saint-Esprit. C'est une vérité. Le Fils est en nous, le Père est en nous, et nous sommes liés les uns aux autres par l'Esprit qui est en nous. C'est une réalité quand vous rencontrez un vrai enfant de Dieu dans la rue et que voilà, vous marchez avec le Seigneur, vous êtes en communion, il arrive, il est en communion, mais ça devient une évidence. Vous parlez 5 minutes avec lui et puis voilà, ça y est, c'est un frère, c'est une sœur. Même si il vient des États-Unis, même s'il vient d'ailleurs, tous les vrais chrétiens sont unis. Ils sont un par l'Esprit qui leur a été donné. Et donc l'unité, elle existe, elle est réelle. Dieu a exaucé le Fils en donnant le Saint-Esprit aux croyants le jour de la Pentecôte. Le jour où l'Esprit est descendu, ça y est, l'unité était là. Ce jour-là, il y a tout de suite eu une communion profonde entre les croyants. Entre les croyants avec le Fils, entre les croyants avec le Père et entre les croyants entre eux. C'est le Saint-Esprit qui a créé ce lien qui est merveilleux. Nous sommes la famille de Dieu et nous sommes unis ensemble. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le changer. Maintenant, cette unité, elle doit se chérir et se conserver. La parole de Dieu dit « Nous l'avons ». Nous l'avons. Mais il faut la conserver. Regardez Éphésiens 4, versets 1 à 3. Éphésiens 4 et versets 1 à 3. Il dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On s'efforce de conserver un acquis. On l'a. Et il nous donne ici toutes les clés, hein. Humilité, douceur, patience, supporter. Voilà. Si on a tout ça, il n'y a pas de raison d'être divisé les uns contre les autres. Hein. C'est l'orgueil qui divise. Hein. Moi, j'ai tout compris. Je vais vous expliquer. Vous avez tort. C'est souvent ça, malheureusement. Hein. Mais il y a une unité. Une unité par l'esprit. Même si parfois on peut avoir des divergences, on n'est pas tout à fait d'accord, mais ça n'empêche pas de s'aimer en Jésus-Christ. Hein. Paul nous parle ici dans Éphésiens 4 de l'exaucement de Jésus. Cette unité, elle nous est acquise, nous l'avons. Elle est produite par le Saint-Esprit. Mais il dit, il faut qu'on s'efforce, il y a un effort, pour la conserver, pour la protéger. Elle existe, mais elle peut se gâcher, elle peut se briser, elle peut se perdre. Pourquoi ? Parce qu'il y a le monde, parce qu'il y a le diable et parce qu'il y a la chair. Et la chair y est pour beaucoup dans ça. Mais aussi, quand le monde entre dans une église, l'église se casse parfois. Parce que les uns veulent suivre le monde, les autres disent non. Et voilà, ça commence à se fracturer. Ou le diable qui monte l'un contre l'autre, et hop, l'unité, elle se fracture. Ou bien la chair, comme je vous disais, qui pense qu'elle est plus intelligente que son frère ou que sa sœur. Et ça brise encore le corps de Christ. L'unité, nous l'avons de fait si nous avons le Saint-Esprit. Si nous l'avons reçu, si nous avons cru, accepté, alors, eh bien, nous avons l'unité. Et vous savez, l'Esprit ne peut pas être divisé avec lui-même. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le diviser, le Saint-Esprit. Lui, il est uni. Donc, s'il y a un problème, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est à nous de veiller à préserver, à protéger cette unité. Quand deux enfants de Dieu se séparent mécontents, c'est pas le Saint-Esprit qui les a montés l'un contre l'autre, mais c'est forcément la chair. C'est vrai que parfois il y a deux chemins qui se séparent. Hein, on voit Paul s'est séparé avec Barnabas. Hein, chacun a pris une direction et puis se sont retrouvés plus tard. Voilà. Mais il y a moyen de le faire dans l'amour. Hein. Verset 3. Donc toujours dans Éphésiens, il dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix », mais il ajoute « Il y a un seul corps et un seul esprit ». Il n'y en a pas 36. « Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Et quand il dit « il y a une seule foi » ici, en fait, il parle de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il est en train de parler de la doctrine, en fait, des vérités fondamentales. Il dit « il n'y en a qu'une ». Il n'y en a qu'une. Hein. Le fondement, nous y croyons, il n'y a qu'une foi. Et c'est parce qu'il y a un corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, ben que l'unité, elle est là, elle est concrète, elle est établie. Et c'est à nous de suivre le chef d'orchestre. Vous savez, quand il y a un chef d'orchestre, il faut que tout le monde suive la même partition. Si on commence à jouer chacun sa partition, ben c'est du n'importe quoi, quoi. C'est la cacophonie. Mais si le ton est donné, la partition est la même, et ben là, ça fait une symphonie qui est merveilleuse. Et donc l'unité, on l'a, elle est concrète, simplement, il faut veiller à la conserver. Sixième requête, on retourne dans Jean 17. Jésus a prié pour l'unité de son corps avec un but bien précis. Verset 21 d'abord, il dit « pour que le monde croie que tu m'as envoyé ». Et puis ensuite, verset 23, il dit « moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés et que tu m'as aimé. » Et Jésus a prié pour cette unité, qu'elle soit réellement établie, acquise à son Église, parce que c'est ça qui manifeste la vie divine, l'unité par l'Esprit, l'unité du corps de Christ, l'unité des croyants. Disons, on a déjà entendu, et quelquefois, les croyants font un parallèle entre la petite maison dans la prairie et puis l'église de Jésus-Christ. Mais pourquoi ? Parce que c'est leur référence d'une unité belle, quoi, presque féerique, quoi. Tout le monde s'aime dans la famille, et voilà. Et c'est vrai qu'une église qui va bien, y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, ça se voit, et puis ça nous touche. Et justement, quand il y a de la méchanceté, c'est sûr qu'on se dit, c'est comme dans le monde. Mais quand on voit quelque chose qui ne va pas, et puis qu'après il y a de l'amour et du pardon et de la grâce et de la miséricorde, de la bienveillance et de la bonté, on se dit, mince, mais où je suis tombé ? C'est quoi ça ? C'est pas naturel, ça. Et là, on dit, c'est divin, c'est obligé. Et on est attiré. Quand on aime Dieu au fond de soi, on est attiré parce qu'il vient de Dieu. Et le fait de voir Dieu, ça touche. S'aimer les uns les autres. Il n'y a que Dieu qui puisse par son esprit réaliser cette unité. Que Dieu qui puisse apporter la paix et l'harmonie entre les hommes et les femmes qui sont opposés entre eux. De générations parfois aux antipodes les uns des autres, très éloignés, et puis aussi des pécheurs, quoi. Unir des pécheurs, c'est impossible. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et on a un témoignage personnel dans le monde, mais on a aussi un témoignage d'église. Et cette unité, il faut la chérir, comme nous dit la parole. Pour rien au monde, il faut l'altérer, l'affaiblir, la souiller, la brader pour des intérêts personnels ou pour une ambition personnelle, non. Et il faut mettre ça de côté et vraiment aimer ce que Dieu nous a donné, l'unité par le Saint-Esprit. Alors je termine avec la septième requête de Jésus, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parfois, on peut prier totalement le contraire de ce que Dieu veut. Alors, pourquoi je dis ça ? Par exemple, on va prier, Seigneur, permets qu'un tel reste avec nous. Permets qu'il dépasse les 80 ans. Je te taquine un peu. Mais parfois, c'est pas ça. Hein? Et parfois, Dieu dit non. Non, moi j'ai envie que la personne rentre à la maison du Père, au plus vite. Hein? La prière de Jésus est que là où il est, un tel soit aussi ou une telle soit aussi avec lui. Hein? Jésus veut aussi prendre ses enfants avec lui. Ce qui est de loin le meilleur. On le sait, hein, ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours le meilleur pour nous. De voir quelqu'un rejoindre le Seigneur. Hein, parce que ça nous fait la peine, ça déchire le cœur. Hein, et on n'oublie pas. Mais c'est le meilleur. Et c'est pour tous ses enfants, c'est pour nous aussi. Cette prière de Jésus, c'est la promesse de la vie éternelle. Jésus a prié que tous ses enfants montent au ciel et voient sa gloire. Nous verrons sa gloire. Nous allons entrer dans l'éternité. Si nous sommes son enfant, alors c'est un fait certain, puisque Dieu exauce toujours le Fils. Nous verrons la gloire de Jésus-Christ. Nous entrerons dans le ciel. Nous contemplerons la magnificence de son règne. Les anges, le trône, c'est... Il n'y a pas de mots. Et aucun de ses enfants ne peut le perdre. On ne peut pas le perdre, ça. La vie éternelle n'est pas quelque chose que l'on perd quand on l'a reçu. On l'a lu dans les versets précédents. Pendant qu'il était sur terre, Jésus a gardé ses disciples. Et aucun ne s'est perdu, si ce n'est Judas, le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Mais mis à part Judas, qui a choisi lui-même sa voie de perdition, mis à part lui, aucun ne s'est perdu. Parce que personne ne peut se perdre quand il vient se réfugier dans les bras de Jésus-Christ. Et ni le monde, ni le malin, ni la chair ne seront un obstacle à cela. On doit prier contre les dangers qui sont sur cette terre, qui guettent notre séjour, mais ça n'empêchera pas qu'on entrera dans le ciel de gloire. Ça, c'est une vérité. Alors, avec cette prière du Seigneur, on peut retenir que si on veut aussi que nous, notre prière soit efficace, prier dans la volonté de Dieu, alors c'est un modèle aussi, on peut s'en inspirer. Prier pour la protection des enfants de Dieu, prier pour leur sanctification, prier pour la préservation de l'unité, prier que le monde croit devant cette unité. Prions que le monde croit. On va avoir un moment de prière. Donc si vous voulez adorer le Seigneur, vous pouvez le faire librement, chacun à votre tour.